Ce jour dédié pour la réfouachéma, la guérison complète et rapide de Laure Ephrate Bat Étoile, Étoile Bat Fernande, Armand Ben Gabriel. Pour la bonne santé et longue vie dans la joie et la Torah de Hana Bat Ephrate Laure et de Chava Bat Ephrate Laure et de Elisa Bat Karine. On pose la question ici de parler un peu, commenter les 10 commandements. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'on demande dans les 10 commandements? On a 6 mitzvot continues, quotidiennes, qu'on doit faire sans cesse, sans arrêt. Parmi ces 6 mitzvot, il y en a 2 qui font partie des 10 commandements, ce sont les 2 premières. La première, Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseta Lecha Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, c'est-à-dire croire en Dieu. Sorti d'Égypte, ça veut dire non seulement qu'il y a un Dieu créateur du monde, comme beaucoup de gens veulent bien croire, mais la sortie d'Égypte, elle montre plus. Elle montre que Dieu, il agit dans ce monde. Il y a une providence divine, il s'occupe du monde. Il voit un peuple qui est asservi en esclavage et le sauve. D'accord ? Alors que c'était tout à fait anormal, de façon normale, on ne pouvait pas quitter l'Égypte, tout à fait surnaturel. Donc on est sorti de façon surnaturelle par des miracles, etc. Donc on voit que Dieu agit dans le monde. C'est la première des 6 mitzvot qui est continue, qu'on doit faire sans cesse, croire en ce Dieu-là. Deuxième des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ne pas croire en d'autres dieux que Dieu. D'accord ? Toutes sortes de haute croyance est interdite, même ce qu'on appelle le shitouf, c'est l'association. Pour l'égoïme, il y a une divergence d'opinion. Est-ce qu'un goy qui croit en Dieu unique, avec d'autres dieux copains, comme c'est le cas des chrétiens par exemple, d'accord, ils font ça association, ils croient en Dieu. Mais il y a d'autres aussi. Il y a le fils de Dieu, il y a la femme de Dieu, il y a la, je sais pas moi, toutes sortes de familles là-bas, je ne connais pas très bien. D'accord. Alors, pour nous, c'est que c'est l'idolâtrie à 100 000%, c'est interdit. Pour les goyim, c'est une discussion entre des grands décisionnaires. Il y en a qui disent que c'est de l'idolâtrie, disent que c'est pas l'idolâtrie. C'est moins grave que quand on ne croit pas en Dieu, mais on croit qu'aux idoles. D'accord ? T'as le soleil, t'as la lune, t'as Bouka, c'est pas bien de dire leur nom, etc. Ok ? Il ne faut pas dire leur nom, c'est boue et puis comme un boudin. D'accord ? Alors il n'est pas très fin. Et l'islam, bien que nous considérons que ce n'est pas du tout la vérité, mais néanmoins, ce n'est pas du paganisme, ce n'est pas de l'idolâtrie. On a le droit de rentrer dans une mosquée, on n'a pas le droit de rentrer dans une église. En tout cas, tu n'as pas d'autre Dieu que moi, donc l'interdiction de pratiquer, de croire en d'autres dieux ou de pratiquer l'idolâtrie. Ça, c'est la deuxième des 6 mitzvot continues. Je continue sur les 6 mitzvot continues, puis après on reviendra sur les 10 commandements, parce qu'après, ce n'est plus la même chose. Troisième, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, croire en l'unicité de Dieu, qu'il est un. C'est-à-dire qu'il englobe tout en lui. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas autre que lui. Il n'y a pas une chose qui est hors de Dieu. Un, ça veut dire que tout est englobé dans Dieu. Comme on dit, ce n'est pas que Dieu est quelque part dans l'univers. L'univers est quelque part dans Dieu. D'accord ? Parce qu'il est bien, bien plus grand que l'univers. Il est infini, l'univers, il est fini. Donc, croire en l'unicité de Dieu. Troisième, les mitzvot continuent. Quatrième, l'aimer. Vartachem elokecha. Cinquième, en avoir la crainte, Tachem Elokecha Tira. Et sixième, ne pas suivre nos cœurs et nos yeux après lesquels nous nous prostituons. Les filles dans la rue, toute envie physique qui t'éloigne de Dieu. D'accord ? Ce n'est pas nécessaire ou interdite, d'accord ? Donc il faut faire attention de ne pas, se prostituer après cela. Je reste sur les 10 commandements. Troisième et 10 commandements, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est pour les Sfaradim, c'est Bachal Batala. Quand quelqu'un ici dit le nom de Dieu comme ça, il dit même en langue étrangère, pas en hébreu, alors c'est interdit des Rabbanan. À moins qu'il dise le nom ineffable. Le nom ineffable, c'est Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei, mais il le dit sans le puis que je dis. D'accord ? Nous, on dit, quand on veut dire, on dit Yud, Kei, Vav, Kei. À la place de dire Hei, on dit Kei. Alors Yud, Kei, Vav, Kei, ça va. Mais si quelqu'un dit Yud, et puis après il dit Hei, sans dire le puis, au milieu, alors c'est un problème. D'accord ? Il n'a pas parole à ma base. C'est extrêmement grave.
Ah, c'est tout ça.
Géo.
Non, les chrétiens, comment ils appellent notre Dieu, ils disent Yah,
V, ouais, il faut pas le dire. Il faut pas le dire, ouais. C'est Yud, puis Hey, puis Vav, puis Hey, mais on peut dire avec beaucoup de les voyelles différentes. Tu peux dire I et puis A, tu peux dire I et puis O, I et puis H, d'accord, tu as toutes sortes. Ah. Oui.
Il y a énormément aussi de gens, là, n'importe où, des juifs, quand ils disent, par exemple, en arabe, Wada, ça veut dire ils disent avec le L, pas à la place du D.
Ouais.
Ils disent ça, ben ça c'est hyper interdit parce que en fait ça s'appelle jurer sur le nom.
Ouais,
de
ouais,
Dieu.
Ouais.
Du coup ils le disent normalement, mais c'est hyper grave de le dire.
Ouais, 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 ouais. Ouais. En parenthèse, c'est pas dans cet interdit-là, mais c'est une maladie française de jure que jure, ou je vous jure, sur la tête de, sur la Torah, d'accord? C'est extrêmement grave. On ne jure pas jamais. Dans aucun cas, on jure. Même dans les tribunaux rabbiniques, qui des fois, dans certains cas, on fait jurer la personne, ça fait plus de 1500 ans qu'on ne fait plus jurer plus personne. Tellement c'est grave de jurer. En tout cas, le troisième des commandements, c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Alors, ou dire Yud Kevavke à la place de que tu dis Hey, ou faire une bracha, une bénédiction en vain. D'accord ? Pardon ?
Hachem,
c'est rien. Hachem, c'est le nom. Le nom, c'est le nom. D'accord ? Ça ne veut rien dire, le nom. Le nom, on fait allusion au nom, mais on ne dit pas le nom. D'accord ? Maintenant, quand tu dis le nom de Dieu, tu vas dire maintenant ado et puis naï. Comme ça, pour rien. Ou en français, ou en anglais, ou en allemand, etc. Alors, c'est interdit des rabbanan. C'est pas interdit par les 10 commandements, c'est interdit par les sages d'Israël. Ashkenazim, c'est le contraire. Eux, ils disent, chacun va d'après les grands décisionnaires médiévaux, ils disent que quand tu fais une bracha et batala, c'est des rabbanan, parce que ça sauve ensemble. En fin de compte, t'as pas fait rien, c'est de mal, tu as béni Dieu. Quand tu dis le nom de Dieu comme ça, alors là, c'est l'interdit qui est grave. C'est écrit que lorsque Dieu, le troisième commandement a été dit, toute la terre a tremblé. Tellement c'est grave, il faut donc faire attention de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Quatrième des commandements, après qu'on entend ces choses extraordinaires sur Dieu, c'est quoi la mitzvah peut-être la plus, en tout cas, une des plus graves qu'il y a dans toute la Torah et la plus bénéfique non, avant
le vol.
Shabbat. Et dans les commandements, c'est marqué Shabbat, toi, tes animaux. Beaucoup de gens ne savent pas que les animaux aussi, ils ont une interdiction de quelqu'un maintenant. Il a, je ne sais pas moi, il a son chat. Et il le prend dehors pour aller faire ses besoins. Il a mis un petit collier sympathique, comme ça, d'accord. Il fait un interdit, comme si lui sortait maintenant avec un mouchoir dans la poche, dans la rue. Mais c'est son chat. Il n'y a aucune différence entre le chat et lui. D'accord. De même que nous, on n'a pas le droit de faire des choses interdites Shabbat, de même nos animaux n'ont pas le droit de le faire.
On peut faire porter nos enfants.
Alors, un enfant qui peut marcher lui-même, si on le porte, c'est interdit des rabanan.
Si on lui fait porter un sac ou quelque chose.
Non, c'est bien sûr que c'est interdit. Bien sûr. Non, on ne peut pas faire un interdit à nos enfants. Par exemple, tu allumes la lumière, tu la mets près, petit bébé qui ne comprend rien, tu le mets près de l'interrupteur.
C'est okay.
C'est la même chose.
Non, mais là, lui faire de la trottinette Shabbat, si par exemple, si on a besoin de le faire aérer, s'il ne supporte pas, lui faire de la trottinette, il est en vraiment bas âge, je sais pas, du vélo.
Non, on ne peut pas faire, c'est interdit des rabbanins de chinour. On peut pas, on a une, tous les enfants ont une obligation des sages d'Israël de, d'éduquer nos enfants.
Ok. Et là, vous avez dit que si un enfant, il sait marcher, on n'a pas le droit de le porter. Mais j'ai entendu.
C'est des rabbanins. S'il ne peut pas marcher, on le porte, c'est de la Torah. S'il peut marcher, on le porte, c'est des rabbanins.
Ah,
c'est
dans tous les cas, s'il ne marche pas, on peut le porter pour aller à la synagogue.
Non, encore moins. Quand il ne peut pas marcher, alors c'est comme une pierre. C'est beaucoup plus grave. Quand il peut marcher, tu le portes, c'est moins grave. C'est pas permis, mais c'est moins grave. Compris ? Un bébé qui peut marcher que tu portes, un enfant il a 3 ans, tu le portes maintenant sur tes épaules, c'est interdit. C'est moins grave qu'un bébé de 6 mois qui ne sait pas marcher.
Parce qu'il y a une tonne de gens que quand ils accompagnent leur enfant à la synagogue, par exemple, pour un Shabbat Khatan, et sur le retour, le petit dort, où il marche, il est fatigué, il dit je suis fatigué, papa. Ils le portent plus en général. Ils disent que c'est moins grave parce qu'il sait marcher, mais dans le sens où...
C'est interdit des rabbanins. C'est quand même interdit des rabbanins. Cinquième des commandements, honore ton père et ta mère. Super grave. Les cinq interdits de la première colonne des 10 commandements concernent notre relation avec Dieu. Après, les 5 autres concernent nos relations avec l'homme. On voit que Dieu a mis honorer son père et sa mère dans la colonne de Dieu, du genre, ils sont mes associés pour ta création. Notre père et notre mère, c'est comme Dieu. On doit super, et encore un peu plus, faire beaucoup de kibboud avec, et personne n'arrive au niveau qu'il faut arriver. Personne n'arrive.
Vous savez que même Esav, ils
sont
au pied du lit de sa mère pour qu'elle monte sur lui, sur son dos, pour qu'elle arrive à son lit.
Ça, c'est un des Tanaïm qui faisait ça, et on leur a dit, t'es pas arrivé à 1% de ce que vous avez Esav. D'accord ?
Ouais.
Il mettait ses mains sur la boue comme ça pour que sa mère, Rabbi Tarfon, mettait ses mains dans une flaque de boue pour que sa mère passe sur ses mains, pour pas se salir. Et on lui a dit, t'es pas arrivé à 1% de ce que vous avez Savaracha. D'accord ? Tout le mérite du monde occidental aujourd'hui, on dit, ça vient du fait de tout le kibboud avem qu'il a fait à Savaracha. Donc, mitzvah très importante, et Rabbi Yochanan Agmara, il a dit, heureux sont les orphelins. Parce que la barre est tellement haute que c'est très dur de s'en sortir avec ça. Oui.
Pourquoi on a dit le père avant ? Parce qu'en général, le père, c'est celui.
Alors, il y a deux mitzvot. Il y a une de kavod, d'honorer, et une d'avoir la crainte. Dans l'honneur, on met d'abord le père, parce que le fils, il honore plus sa mère que son père. Parce que la mère, elle est sympa, elle lui donne chocolat, manger, tout ça. Alors, il a tendance à plus honorer sa mère que son père. Dans la crainte, on met d'abord la mère, après le père. Parce qu'on a plus crainte de son père que sa mère. La Torah dit exactement le contraire. Tu vas honorer plus ton père et craindre plus ta mère. Bezrat Hashem. Sixième des 10 commandements. L'autre ne pas assassiner. Comme ça s'entend. Septième des 10 commandements. Par rapport à tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'autre femme que ta femme. C'est-à-dire que la femme, c'est l'interdiction, c'est pour la femme de se marier, enfin, une relation avec l'adultère. D'accord, une femme mariée qui est avec un homme. Un homme marié qui est avec une autre femme, qui n'est pas mariée, il n'a pas fait l'adultère. Il a trompé sa femme. Et sa femme, c'est femme Ténida, et bon, c'est beaucoup d'interdits extrêmement graves. Mais ce n'est pas l'adultère. Par contre, s'il est avec une femme qui est mariée, alors c'est l'adultère, et Hachem Ishmor, c'est extrêmement grave. Huitième ligne de commandement, l'otignov. C'est quoi l'otignov? Tu ne voleras point.
Non, mais on m'avait expliqué.
C'est quoi pas voler?
C'est kidnapper une personne.
Exactement. L'interdiction de voler de l'argent ou des biens, etc., c'est l'otignovou. C'est marqué par la Torah au pluriel. La l'otignov au singulier, c'est ne pas kidnapper. La Gemara dit d'où on sait que c'est un vol de personnes et pas un vol d'objets. Il dit regarde le contexte. On a 13 articles par lesquels on explique la Torah. Rabbi Ishmael, ceux qui viennent suffisamment tôt à la prière, avant la prière, ils font traquer de Rabbi Ishmael Omer. Et il y a d'abord l'emed minyano. On apprend une chose de minyano du contexte. Tu prends les mitzvot qu'il y a avant et après l'otignov, ce sont tous des mitzvot, des péchés qui sont sanctionnés par la peine capitale. Tuer, adultère, etc. Donc là aussi, celui qui va et qui kidnappe quelqu'un d'autre, il le kidnappe et l'utilise. Tiens, passe-moi le balai. Ou il le vend. D'accord. S'il a seulement kidnappé, il n'a pas fait l'interdit. Enfin, il a fait l'interdit, mais pas peine capitale. Peine capitale, à l'époque du temps, pour aujourd'hui, il le kidnappe et ou il le vend, ou il le fait faire un travail. Ça, c'est l'interdiction de l'otignov. Ensuite, l'otane beracha et shaker, ne pas faire un faux témoignage. C'est-à-dire qu'il y a eu un accident de voiture, tu as vu ce qui s'est passé, et toi tu vas et tu dis que c'est le contraire parce que c'est un copain à toi. Hein ? Mensonge, voilà, exactement. Tu mens. Le dernier des 10 commandements, l'otarmo, tu ne convoiteras pas ni la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son âne, ni aujourd'hui sa bagnole, ni sa. D'accord, ses habits, son costume, rien. Tout ce qui est spirituel, tu peux convoiter. Je convoite son intelligence, je convoite son sens de l'humour, je convoite son humilité, c'est permis. Convoiter, alors il y a deux interdits, parce que les 10 commandements ont été dits deux fois, et ça change un peu. Enfin, ils ont été dits une fois, mais Dieu a dit des fois deux paroles dans une. Par exemple, dans une fois c'est marqué au propos du Shabbat, Zachot yom Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, et un c'est marqué Shamor, garde le jour du Shabbat, souviens-toi et garde. C'est marqué, les deux ont été dits ensemble. Une chose qu'aucun être humain ne peut faire, mais Dieu peut le faire. Nous, on a les deux versions des 10 commandements, une dans Parashat Yitro, dans le livre de Shemot, une dans Parashat Vayetrana, dans le livre de Devarim. Alors, à propos du dernier 10 commandements, une fois c'est marqué « Lo Tahmod », tu ne convoiteras pas, et une fois c'est marqué « Lo Titave », tu n'auras pas envie. Envie, tave, ça veut dire la même racine, enfin, le français vient de l'hébreu, « Lo Titave », tu n'auras pas envie de ce qui appartient à ton prochain. Quelle différence entre les deux? L'interdiction, elle est si maintenant je vois maintenant une belle voiture chez mon voisin et chez mon copain, et j'aurais bien avoir une voiture pareille, c'est pas bien, mais c'est pas, t'as pas transgressé le dixième des 10 commandements. L'interdiction des 10 commandements, elle est comme ça, elle est que, par exemple, voilà, on va dire Samuel, il a une belle voiture. Attends, si je peux acheter cette voiture là au magasin, alors il n'y a pas aucun problème. On va dire il a une voiture spéciale, elle a appartenu à au Rav Obadiah Yosef. D'accord? C'est une voiture spéciale, c'est un truc, voilà. D'accord? Attends, moi, il s'est assis dessus, fantastique. Alors, je commence à réfléchir comment je vais faire pour l'avoir. Maintenant, si je demande, écoute, je te l'achète un demi-million. Il dit non, elle n'est pas à vendre. Je l'achète 2 millions. Tu réfléchis un peu, dis non, elle n'est pas à vendre. Je te l'achète 10 millions. C'est bon. T'acceptes. Je te donne 10 millions, là. J'ai transgressé l'interdit. Bien que tu as accepté, l'interdiction, elle est, si on s'est opposé à nos demandes deux fois, il y a eu deux refus, tu n'as pas le droit d'aller une troisième fois lui demander. Si tu demandes, tu transgresses l'interdit, bien que le type, il a accepté. Non seulement il a accepté, 10 millions me vient, mais hey, tu veux plus. Non, le rabbi m'a dit que je ne pouvais pas. Non, mais moi, je suis d'accord. Tu me supplies de te l'acheter, c'est interdit. Maintenant, quels sont les deux interdits? Un interdit, c'est quand tu vas la troisième fois et tu fais ta demande, d'accord? L'autre interdit, c'est que tu n'as même pas fait, tu as juste préparé. C'est-à-dire, s'il me dit non, je lui dis 500 000. Après, je lui dis 2. Après, troisième fois, je lui dis 10 millions. D'accord ? Tu as préparé dans la tête comment te faire pour obtenir le truc. Rien que la machination que tu es en train de préparer, là, tu transgresses déjà l'interdit.
Alors, et de dire pourquoi lui et pas moi, c'est une interdit.
C'est un autre interdit de ne pas être jaloux. Rekavakamantina, celui qui est jaloux, alors ses os pourrissent. D'accord ? Dans la tombe d'abord, et même dans la vie. C'est-à-dire, Etsem, les os, c'est son lui-même. Parce qu'au lieu de s'occuper de lui-même, ce que lui a donné, qui vient, il aimerait bien voir ce que l'autre a, et il n'est pas content de ce qu'il a. Donc, quelque part, il va pas. Ce qu'il a, c'est qu'il a reçu comme outil pour faire sa vie. Il va délaisser ses outils pour essayer d'avoir les outils de l'autre, qui ne sont pas ses outils pour réussir sa vie. Donc, son lui-même, il le laisse pourrir. Que Dieu nous préserve, c'est très dur, il faut se battre pour ne jamais être jaloux, Bézard
Hachem. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que c'est en rapport avec la poudre de vol ?
Non. Poudre de vol, c'est par exemple le poker. Le poker, tu mets une mise, parce que d'après les cartes que tu as reçues, tu es certain que tu vas gagner. Et l'autre aussi, il est certain qu'il va gagner. Pour finir, maintenant, un des deux perd. Maintenant, si on t'avait dit à l'avance que tu allais perdre, c'est certain, tu vois que tu vas perdre, tu n'auras pas mis l'argent. Donc quelque part, l'argent que tu as mis, tu l'as mis avec un manque d'information. Pour venir, on te le prend. Ce n'est pas un vrai vol de la Torah, mais c'est un vol des Rabbanan.
Ouais. Jouer au poker, casino, blackjack, tout ça, c'est interdit.
Tous les jeux, si c'est la loterie, tous les jeux où il n'y a aucune interférence de l'être humain dans le jeu, c'est permis. La loterie, tu peux faire ce que tu es. Tu es le plus intelligent, tu sauras jamais. Mais le poker, la roulette, je ne sais pas. La roulette, il faut un peu d'intelligence ou pas ?
Non. La roulette, c'est...
Le poker, voilà. Mais par exemple, la Gemara, elle parle des courses de coqs, d'accord, de pigeons, d'accord, les chevaux. Ça, tu connais les chevaux, tu machins, etc. Le poker, tu joues, tu connais, t'es bon, d'accord. Tout où il y a l'habilité de l'être humain ou de l'animal qui est géré par l'être humain pour réussir ou pas, là, c'est interdit.
La roulette, on peut soudoyer le croupier.
Hein ?
La roulette, on peut soudoyer
le croupier. C'est autre chose, d'accord.
On lui dit, voilà, si tu fais tomber sur ce chiffre, on fait moitié-moitié sur le gain. C'est
ouais.
Multiplié par 36.
Ouais.
Donc, on met 50 euros, c'est multiplié par 36. Il peut faire tomber en fonction de la zone.
Okay,
ça, c'est volé, ça aussi.
Ça, c'est soudoyé.
Et ça fait partie du vol au casino ou pas ?
Là, tu voles les autres. Le type qui a mis, qui croyait qu'il gagnerait, à cause de toi, il a perdu. Ça, c'est pas de la poudre de vol, c'est du vol, ce que tu dis.
C'est
les paris sportifs,
c'est les autres qui...
Hein ?
Les paris sportifs,
là, c'est certain qu'il y a une habilité. Ouais, les paris sportifs, tu sais que le joueur, il est bon, etc. Quand c'est que hasard, alors, c'est pas conseillé, mais il n'y a pas d'interdit là-dedans, il n'y a pas de vol là-dedans. D'accord. Dès qu'il c'est pas hasard, alors c'est un problème de vol. Oui.
Si dans le poker, par exemple, on joue pour jouer, mais ça veut dire
sans argent.
Non, même avec l'argent, mais on joue pour jouer.
Tu veux gagner. Tu te mets en finale.
Non, mais dans le sens où pas.
Si à la fin, tout l'argent qu'on met, il va rentrer d'accord, par exemple. Là, joue tant que tu veux, il n'y a aucun problème.
Mais
si maintenant tu joues et tu penses que tu vas gagner, tu penses que tu vas gagner de l'argent. Et tu es content de gagner de l'argent, ça ne va pas. Si tu es prêt à perdre l'argent, dis-lui, l'argent que je mets, il est perdu, je ne le reprendrai plus jamais. Ça va ? Tu mets l'argent à Sedaka. L'argent que tu mets, il est perdu. Parce que si tu ne pensais pas cela, alors quand tu le perds, quelque part, tu n'es pas content. Donc on t'a volé.
Et si je joue par exemple au bif, pas avec concentration, je mets par exemple.
Habibi, chaque fois que tu mets l'argent, tu espères que tu vas gagner et pas le perdre. Donc quand tu le perds, on t'a volé. T'as compris ? Et si t'as gagné, tu as volé l'autre.
Dans
tous les cas, il faut que les types s'y mettent. Si tu veux autoriser un jeu de poker avec l'argent, il faut que les gens, quand ils mettent l'argent, ils savent, ils ne le rêveront plus jamais. Ça ira à la Tzedaka.
Mais s'ils le gagneront, ils le mettront à la Tzedaka.
Non. Ouais, c'est bon. Alors ça, tu peux. D'accord. Non, mais ils savent que l'argent qu'ils mettent, ils ne le revoient plus. Ils le revoient pour le mettre à la Tzedaka, mais il n'appartient pas. Il est perdu. Là, ça va. Il accepte de perdre de l'argent. Mais s'il n'est pas convaincu qu'il va perdre de l'argent, et qui perd pour finir, il a été volé. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen.